Alors, bon matin chacun. Merci de votre accueil. Merci d'avoir collaboré aussi. Ce qui s'est passé, c'est que Pasteur Michel m'a envoyé un courriel et il m'a dit, « Daniel, je te donne carte blanche pour la célébration, pour le culte. » Alors, je me suis permis quelques fantaisies. Alors, voilà. En même temps, c'est pour me faire du bien parce que au Niger, de façon naturelle, les gens se séparaient comme ça dans l'église. Les femmes se mettaient dans une même rangée et les hommes dans une autre rangée. Alors, c'est un petit côté naturel pour moi. Là, ça me rappelle le Niger. Mais en passant, j'ai une bénédiction que je peux vous dire, c'est au Niger, c'est les femmes avaient la rangée du milieu. Dans une église, il y avait deux petites rangées à ses côtés et les femmes se retrouvaient toutes au milieu. Alors, c'est quand même honorable, hein? C'est quand même honorant. Et non pas, ils n'étaient pas laissés derrière ou sur le côté. Alors, ce matin aussi, vous allez voir, on va parler dans une certaine mesure des hommes et des femmes et on va faire une lecture ensemble. Alors, vous allez voir, là, c'est celle-là. Voilà. Alors, si vous regardez, Sophie et moi, on va lire la première phrase. Et quand c'est écrit « tous », tout le monde ensemble lit. D'accord? On comprend? Après ça, je vais changer les images. Après ça, il va y avoir une phrase que ça va être les hommes. C'est-tu les hommes en premier? Ça va être les hommes qui vont parler en premier, qui vont parler seulement. Et après ça, il va y avoir une autre acétate que ça va être les femmes qui vont lire. Et toujours avec ça, il y a Sophie et moi qui allons, vous allez voir nos noms se mélanger à ça. D'accord? Vous êtes prêts? Alors tout le monde, on lit ensemble la parole de Dieu.
On commence?
Ouais.
Comment je suis?
Pardon, je vais juste me tourner. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, tous les hommes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses.
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand.
Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même.
Et que la femme respecte son mari.
Amen. Ce matin, je vais vous parler de ce mystère qui est grand. Le mystère de Christ et l'Église. Le Christ et l'Église comme un couple en particulier. Voilà, je pense que c'est mieux pour moi. Je sais que la plupart, on a tous retenu peut-être la première phrase. Hein? Ou dans le premier encadré que les hommes ont lu. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont eu peur un peu du message? Hum? Mais j'ai trouvé que l'apôtre Paul, il est assez innovateur ou spécial, parce qu'il va comparer, le couple à Jésus et l'Église. Hein, si on remarque, il dit pas « Ah, Jésus et l'Église, c'est comme un couple. » Il dit non, le couple, c'est comme Jésus et l'Église. Et le modèle, c'est Jésus et l'Église, c'est Christ et l'Église. Et ce matin, je veux vous parler du modèle. Je veux vous parler de Jésus et de l'Église. C'est certain, juste pour quand même briser la mauvaise impression des fois qu'on a du premier verset, parce qu'on sait tous que ça semble être sévère ce qui est demandé aux femmes, n'est-ce pas? Parce qu'on l'a souvent entendu à tort et dit de façon sévère ou négative. Mais j'aimerais juste vous faire remarquer combien ça, c'est ce qui est dit aux femmes et qu'est-ce qui est dit aux hommes. Et donc, je suis obligé de mettre ça sur deux pages, ce qui est dit aux hommes. Alors que les femmes, ça rentre juste dans un petit encadré. Alors, messieurs, qu'est-ce que ça veut nous hein? C'est-à-dire qu'il y a un poids qui est quand même pas mal grand qui est sur nous, messieurs, dans ce texte-là, si on veut. Avant de dire, autrement dit, hey, « Femme, soyez soumise à vos, à moi », tu sais. On doit aller lire les autres, qu'est-ce qu'il nous dit. Donc, juste pour prendre la peine de regarder qu'est-ce qu'il dit aux hommes rapidement, parce que comme je dis, je veux plus m'attarder sur Jésus et l'Église, mais je sais qu'on est tous restés avec l'impression, ah, tout de suite, ah, femme, soyez soumise. Et je veux qu'on prenne le temps de doucement, en introduction, de voir qu'est-ce qui nous est dit sur les hommes. Alors, messieurs, ouvrons nos oreilles. Mais on remarque que pour les hommes, c'est beaucoup des verbes actifs. Hein? Aimer. Aimez vos femmes, comme Christ a aimé. Il s'est livré afin de la sanctifier. Puis après l'avoir purifié, pour la faire paraître. C'est tout des l'homme, il y a un rôle actif ici. Il prend, et Jésus nous montre un modèle actif. Comment Jésus a aimé l'Église, à partir de ce texte-là? Eh bien, il est allé à la croix. Il était actif. Il n'a pas attendu. Et de l'autre côté, si on pourrait dire, à vous, mesdames, il y a un rôle plutôt passif dans un sens. C'est-à-dire, soyez soumises. C'est la formule verbale en français. En tout cas, c'est une forme passive qui vous dit, ah, autrement dit, j'attends monsieur va être actif, et madame, si on pourrait dire, suivons-les dans leur activité ou dans leur côté actif. Mais, comme je dis, je ne veux pas nécessairement m'attarder sur les relations de couple. Vous allez voir que, néanmoins, quand je veux parler de l'Église, quand je veux parler de Jésus, ça va nous parler sur le couple, parce que l'apôtre Paul nous dit quoi? Il nous dit que Jésus et l'Église, c'est notre modèle. C'est notre comparatif. Si on veut savoir comment est notre couple, on peut se comparer à Jésus et l'Église. Mais encore, je veux juste surtout rappeler que, juste pour montrer que pour les hommes, avant qu'on aille dire, ou avant qu'on ose dire, oh, les femmes doivent être soumises, on doit se rappeler le rôle actif qu'on a. Et aussi, si des fois vous êtes dans la rue, dans le milieu de travail, moi j'ai entendu des gens qui sont réactifs quand on leur parle du Seigneur, on me dit, ah oh oui, le christianisme, ça c'est misogyne, c'est contre les femmes. Alors chacun, je vous encourage de vous rappeler ce passage-là qui est dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, si je me trompe pas, qui nous rappelle que, qu'est-ce que la parole nous demande aux hommes? Qu'est-ce que la parole nous dit aux hommes? Parce que beaucoup de gens sont restés avec l'impression qu'est-ce qui était demandé aux femmes, et dans notre monde de libération et d'égalité, on réagit au premier verset, mais ce qui nous est demandé pour les hommes, c'est quand même exigeant, demandant. Peut-être que ça n'arrive pas, je voulais juste vous citer mes sources d'influence de ce que je vais vous parler ce matin. C'est des livres que j'ai lus il y a longtemps, qui ont mûri dans ma tête pendant de nombreuses années. Alors, ça fait quand même longtemps que je les ai lus, mais je sais que mon influence vient de ces livres. Le premier s'appelle « Belle mais délaissée »,« L'Église joyau de Dieu ». Et le deuxième s'appelle « L'amour comble les fossés ». Les auteurs, c'est Paul Bilheimer et lui, c'est Michael Griffiths. Michael Griffiths, qui était missionnaire en Asie. Et il y a un troisième livre que j'ai laissé au Niger. Mais en fait, ceux-là, je les avais laissés ici plutôt. L'autre, je l'avais amené au Niger, qui est du même auteur, qui s'appelle « Ils régneront ». Alors, si vous êtes... je voulais juste vous citer pour que vous sachiez, des fois, on ne sait pas d'où viennent ces idées-là. Est-ce que ça vient juste de sa tête? Mais c'est venu de quelqu'un d'autre. Mais pas juste de quelqu'un d'autre, mais c'est des idées qui ont mûri pendant quelques années aussi dans ma tête. Alors, comme j'ai dit, l'apôtre Paul nous place Jésus et l'Église comme un, un modèle pour le couple. Hein, il nous dit, homme, soyez comme Jésus. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes, allez au-devant. Jusqu'à mourir pour elles, si c'est nécessaire. Et une chose qui est fantastique, que je trouve, c'est que l'exemple qu'il nous donne, c'est que Jésus, c'est Jésus qui nous prépare en tant qu'Église à être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est Jésus qui nous prépare en tant qu'Église à paraître devant lui sainte et irréprochable. C'est quand même superbe, hein, de cette idée-là, que c'est Jésus qui est à l'œuvre auprès de son épouse. Et maintenant, je veux vous amener dans cette comparaison. Je veux vous amener à essayer de vous détacher de cette idée simplement du couple, puis dire que l'épouse de Jésus, c'est nous. L'épouse de Jésus, c'est l'Église. Et Jésus nous parle justement dans ce texte-là qu'on vient de lire, il nous montre bien que Jésus agit envers son Église comme envers une épouse. Mais d'une façon, active, mais d'une façon que je trouve fantastique, c'est-à-dire qu'il travaille à nous rendre belles. Et là, pardon, je sais, messieurs, ça nous fait drôle de l'entendre, d'accord? Mais en tant qu'Église, en tant que nous, il travaille à nous rendre sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et donc, l'Église nous regarde, Jésus nous regarde, nous, en tant qu'Église, avec des yeux amoureux, des yeux d'un époux, d'un homme qui aime sa femme, puis qui en plus qui la trouve belle, mais et qui en plus la trouve de plus en plus belle, puisque on nous prépare de plus en plus à être sans tache ni ride, à être sanctifié. Dans l'Ancien Testament, il y a un épisode, un événement qui arrive, qui est le premier couple. N'est-ce pas? Un jour, Dieu crée tous les hommes et les femmes. Il crée le ciel et la terre. C'est vrai qu'il va créer tous les hommes et les femmes, mais pas de cette façon-là. Donc, il va créer le ciel et la terre. Et là, il va créer Adam. Il va le créer à partir de la boue. Il va le créer à partir de la boue. Puis une fois que l'homme va être là, seul, Dieu arrive à une conclusion. Il dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon qu'il y ait un seul être humain. Alors, Dieu décide d'amener auprès de Adam tous les animaux, toutes les créatures qui existent. Et là, Adam rencontre toutes ces merveilles-là, toute cette création, tous ces animaux qui ne sont pas encore corrompus, qui n'ont pas encore le goût de le manger d'ailleurs. Et Adam va leur donner chacun un nom. C'est Adam qui va les nommer, qui va leur dire. Mais après, chacun qui voit, même quand il a vu le chimpanzé, il l'orang-outan, il dit, non, c'est pas semblable à moi. Non, je suis pas encore heureux. On n'est pas la même famille. La même chose quand il a vu le rat, certainement, et même le cochon, hein, même si on dit que intérieurement, dans notre, ça se ressemble, il dit, non, ça, c'est pas moi. C'est on n'est pas fait pour... Il n'est pas satisfait de cette amitié-là. Et Dieu dit, ah, je sais ce qu'il faut. Dieu fait tomber le sommeil sur Adam. Adam, Dieu va percer son côté droit, n'est-ce pas? Et il va aller chercher un morceau d'Adam. Puis à partir de ce morceau-là, il va façonner une femme. Il va la façonner, puis vous connaissez... Il va l'amener, la présenter à Adam. Et Adam, quand il va se réveiller, il va voir la femme, il va dire une parole. Là, j'ai été chercher une autre place, vous allez voir. En fait, en voyant la femme, on pourrait sortir cette parole-là. Il a dit, « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il a reçu une grâce du Seigneur. » Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il a reçu une grâce du Seigneur. Bon, ça vient des proverbes. Mais ce que Adam dit, il dit « Wow! » Hein? Il dit « Là, maintenant, j'ai trouvé la chair de ma chair, l'os de ma... eau de mes os, chair de ma chair. » Et je crois que Salomon a simplement paraphrasé en disant « Hey, j'ai reçu une grâce du Seigneur. » Mais est-ce que ça vous fait penser? Est-ce que ça vous rappelle un événement qui est arrivé plus tard? Moi, j'aimerais vous dire que je vois la création de Ève comme un type de Jésus sur la croix. Si on prend la peine, comme si déjà, au travers de la création de l'homme et d'Adam, de l'homme et d'Ève, pardon, Dieu avait voulu nous jeter un indice. Ah, je veux que quand ça va arriver, vous reconnaissiez ce qui est arrivé à la croix. Quand que l'événement va se produire, vous découvriez que la création d'Adam et Ève, c'est une prophétie. On appellerait ça un type. Parce que Jésus, c'est le Fils éternel de notre Dieu éternel. Et à un moment donné, on pourrait imaginer que dans le ciel, que Dieu le Père dit, il n'est pas bon que mon Fils soit seul. On n'a pas cette phrase-là comme telle, mais on pourrait l'imaginer. Mais sans avoir à l'imaginer, on sait qu'un jour, Jésus s'est endormi. Jésus est mort sur la croix et qu'on a percé son sang. Pas son sang, on a percé son côté droit. Et il y en est coulé du sang et de l'eau. Et après sa résurrection, qu'est-ce qui en est né de la mort et de la résurrection de Jésus? Il en est né nous. Nous, l'Église. Nous, son épouse. Nous. Alors, un peu, justement, en préfiguration, Adam et Ève nous annonçaient, nous parlaient de Jésus et de l'Église. Ils nous parlaient de nous. Et donc, on pourrait imaginer à ce moment-là l'action que... j'aimerais que vous puissiez imaginer à ce moment-là quelle est l'attitude de Jésus quand il nous regarde, nous, l'Église. Wow, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il a reçue de l'Éternel. Wow, voici, ô de mes os, chair de ma chair. Quand il dit, on est son épouse, c'est de cette manière-là qu'on peut le voir. Peut-être vous trouvez, ah, est-ce que c'est vraiment aussi fort que ça? Eh bien, Adam, qu'est-ce qu'on a fait? Ils sont allés chercher son corps, hein? Dieu, il est allé, je ne sais pas de façon médicale comment ça peut se passer, mais il a pris une côte. Et nous sommes le corps de Jésus. Nous sommes le corps de Christ. Et c'est pour ça que je me permets de faire je l'ai aussi lu, hein, c'est pas né de mon imagination, c'est seulement moi. Mais c'est pour ça que la comparaison avec Adam et Ève, elle est aussi forte. Parce qu'on n'est pas seulement l'épouse, mais c'est au point qu'on est comme son corps. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs? Hein, il dit, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Et donc, Jésus nous voit, bien qu'on, hein, ma femme, elle est là, mais Jésus, il dit que nous sommes une seule chair. C'est comme si, pas Jésus, mais en fait, mais ici, la comparaison de l'apôtre Paul nous fait, c'est que nous sommes une seule chair. Je dois prendre soin de Sophie comme mon propre corps. Comme je prends soin comme je me donne la peine de m'alimenter, je me donne la peine de dormir, je dois prendre soin de Sophie, mon épouse. Et on nous dit donc que Jésus prend soin de nous de cette manière-là. Nous ne sommes pas simplement des virus externes qui achalons le Seigneur. Nous sommes son corps. Nous sommes précieux entre ses mains, dans ses yeux, à ce point-là. Oui. Ah, puis quand je faisais la comparaison, en fait, ce que je vous ai amené à changer une idée peut-être, l'idée que j'aimerais changer, c'est de dire que des fois, on se voit comme des misérables pécheurs qui recevons les miettes de l'amour de Dieu, puis qu'on est indigne. Des fois, on a cette idée-là, « Ah, je suis un pécheur, Jésus avait pitié de moi parce que j'étais un pécheur. » Mais ce que j'aimerais vous montrer avec cette image de Jésus avec l'Église, c'est qu'en fait, c'est un geste d'amour qu'il y a eu envers nous. Je suis certain qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes que vous êtes allés chercher une épouse en vous disant, « Ah, je vais aller chercher quelqu'un qui est dans la misère, puis je vais la sortir de la rue, puis vraiment, je vais... » tu sais, vous étiez déjà riche et millionnaire, et vous avez pris quelqu'un de misérable, puis vous avez dit, « Ah, je vais la rendre sans tache, ni ride, ni rien de semblable. » Je ne sais pas si même ça existe dans un conte. Je ne sais pas si... En général, si ça existe, parce qu'ils sont quand même tombés en amour. Hein, il y a quand même quelque chose, une flamèche, une étincelle. pour que ça se passe. En général, on fait un geste d'amour quand on trouve une épouse, quand on trouve un mari, parce que ça, dans la vraie vie, ça se passe des deux côtés. Il y a un geste comme actif, c'est on découvre quelqu'un qui nous aime, puis on lui rend de l'amour. Il y a une action, je dirais, positive. Eh bien, j'aimerais vous donc qu'on voit la croix, qu'on voit Jésus qui nous aime de cette façon-là. C'est pas juste que ça dépasse le fait que Dieu était au ciel en train de dire « Ah, les pauvres êtres humains, qui sont méchants? Qu'est-ce que je devrais faire? Peut-être que je devrais les frapper, hein? » De ma colère, « Oh non, je vais être meilleur que ça, je vais envoyer Jésus qui va mourir pour eux. » C'était plus fort que ça. C'était Jésus qui dit « Je vais y trouver ma bien-aimée. Je vais y trouver mon épouse. Je vais y trouver l'os de mes os, chair de ma chair. Je vais y trouver celle que je vais prendre soin comme mon corps. » Et ça, c'est nous. J'aimerais ça que vous disiez ça à votre voisin. L'Église, c'est nous. Dites ça à votre voisin à côté de vous. Voilà, je venais de découvrir pourquoi j'ai fait exprès de séparer les hommes et les femmes. Là, je vous dis la vraie raison pour laquelle j'ai fait ça. C'était pour mélanger l'Église. Parce que là, vous avez quelqu'un à côté de vous qui est pas, surtout pour les couples, les familles, qui est pas votre mari et votre femme. Et je voulais que vous ayez l'occasion de regarder à côté de vous et de dire, ah, quand je regarde à côté de moi, c'est l'Église. Et donc, l'Église, c'est nous. Alors, dites ça aux gens de l'autre côté de la rangée. Alors, pendant qu'on pense à cette idée-là, j'aimerais réaccentuer cette idée. Hein. Parfois, j'ai pensé à la... Pendant que je méditais sur ce texte-là, je me suis dit, puis je lisais la Genèse, il y a une phrase qui m'est venue fort. Parce que même ici, ça nous dit que c'est pourquoi, la première phrase en haut, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et souvent, quand on médite sur la mort de Jésus sur la croix, est-ce que vous avez déjà entendu cette idée-là que Jésus a quitté son père? Hein? Pendant un temps, Jésus n'était plus avec son père, qui était là de toute éternité. Et en fait, on a toujours vu ça comme un mouvement, un geste de souffrance intense. Et certainement, ça devait être un geste de souffrance intense. Mais quand on voit ça dans la perspective du couple Jésus et l'Église, Jésus à la croix quitte son Père pour nous. Il quitte son Père pour l'Église. Il quitte son Père par amour pour l'Église, pour nous. Et c'est dans un geste donc actif envers nous de dire, c'est pas juste qu'il a pitié de nous, il est pas juste, il dit, oh, les pauvres, ils sont misérables, ils s'en vont en enfer. Non, il dit, wow, je veux qu'ils soient avec moi au ciel. Je veux qu'ils soient ma bien-aimée. Je veux les aimer comme mon propre corps. Et ils vont littéralement devenir mon propre corps. Avant qu'on parte pour la mission, on a toujours une sorte de questionnaire, d'entrevue. Comment qu'il dit ça à tout le monde en parle, tu sais, avec les questions qui tuent. Tu sais, cette entrevue-là, c'est tu passes ou tu passes pas. Tu sais, c'est par cette entrevue-là qu'on va t'accepter comme missionnaire, puis ou sinon, non. Tu sais, on te refuse. Et c'est toujours un peu angoissant. T'sais, d'un autre côté, tu te dis, voyons, est-ce qu'on peut vraiment échouer cette entrevue-là? Mais oui, c'est possible. Et justement, j'ai eu la question qui tue à un moment donné. Et c'était, pourquoi tu veux partir? Pourquoi tu veux aller en Afrique annoncer la bonne nouvelle? Et là, ce moment-là, je me souviens, en fait, je peux le citer probablement, c'est pas grave, mais c'était Yvan Fournier qui avait posé la question. Et on était autour d'une table, il y avait tous des grands bonnets de la mission. Et Yvan, qui était le directeur de à cette époque-là, qui me pose la question. Et là, je me souviens que je le regarde. Et d'instinct, je lui réponds, je dis, je sais qu'est-ce que tu veux que je te réponde. Je connais la réponse que tu veux entendre. Puis je veux pas t'a donner. Parce que le premier réflexe, l'habitude, pourquoi qu'on va en mission, c'est pour sauver les perdus. C'est pour aller voir les perdus puis leur annoncer la bonne nouvelle qu'ils s'en vont en enfer et qu'ils peuvent être sauvés par Jésus-Christ, qui est une très bonne nouvelle. Hein? Amen. Mais j'ai dit, la vraie motivation que j'ai, c'est d'aller aimer ces gens-là. Je veux aller leur apporter une marque d'amour. Je veux aller leur montrer qu'ils peuvent être aimés. Et donc, leur montrer qu'en Jésus, ils peuvent trouver une qualité de vie qui est différente. Et donc, ma motivation n'était pas le côté négatif du salut, mais le côté positif. Et pendant qu'on y était là, je me souviens qu'un jour, je passe dans un village. En fait, on traverse. Je cherchais un village où est-ce que le Seigneur m'appelle à investir mon temps. Hein, qui, ce sera le village de Tagantasu, pour ceux qui se rappellent. Mais en traversant le village de Tagantasu, il y a un petit village là, qui s'appelle Marie. Pas de E à la fin. Il s'appelle Marie. Et bon, moi je traverse là, puis bon, il y a des bâtiments, naturellement, des maisons en banco, qu'on appelle. Puis c'est vrai qu'il y avait une espèce de gros bâtiment qui ressemblait à un hangar.
Pardon.
Qui ressemblait à un hangar, mais qui semblait délabré, qu'il n'y avait rien. Et là, je passais devant, mais moi je connaissais pas. Puis mon gardien qui était avec moi, qui m'avait guidé jusqu'à Tagantasu, il me dit, « Ah, il y a une église là-bas à Marie, tu sais. » Puis on venait de passer, de traverser, puis je dis, « Qu'est-ce que tu me dis là? Il y a une église à Marie, tu sais. » J'ai toujours eu l'impression qu'il n'y a rien, tu sais. Je dis, il n'y a pas de chrétiens dans le quartier, dans la région. Il dit, « Oui, oui, on vient de passer devant l'église. » Je dis, « Attends, il y a quelque chose qui ne marche pas, tu sais, c'est bizarre. » Alors, c'est sûr, sur ce coup-là, ce moment-là, je n'ai pas retourné de bord tout de suite. Mais à un autre moment donné, j'ai commencé à m'arrêter, puis je dis, « Bon, il faut essayer de trouver c'est quoi, c'est où cette église, c'est qui cette église surtout. » Et en effet, je trouve un bâtiment, l'espèce d'hangar qui était là. C'était une église, c'était des missionnaires qui avaient bâti ça. Mais malheureusement, il y avait plus de réunions, il y avait plus de croyants qui se réunissaient là. Alors, j'en glisse un mot à d'autres missionnaires et les autres missionnaires me disent « Ah, mais tu sais, c'est peut-être une autre mission qui est là, tu sais, faut pas jouer dans les plates-bandes, c'est pas notre département, notre secteur. » Mais je dis « Il y a quelque chose qui m'accroche, tu sais, je peux pas laisser ça comme ça. » Alors, je cherche, je trouve la mission qui est en charge de cette église-là. Et bon, il y a un pasteur qui est en charge, mais il est pas sur place. Et finalement, les croyants se sont effilochés, ils ont quitté la foi, et il n'en restait plus que deux ou trois au premier contact. Et moi, presque à toutes les semaines, je devais passer devant là, et j'étais torturé en dedans de moi-même. Je me disais, non, c'est pas possible que je passe comme ça sans rien faire. Et en effet, pendant que j'étais dans la brousse, si on pourrait dire. On cherche toujours à définir qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon travail, c'est quoi mon appel, c'est quoi mon rôle, qu'est-ce que je suis en train de faire. Et le Seigneur m'avait donné cette phrase-là, il dit, tu cherches ma femme, tu cherches mon épouse qui est perdue ici dans la brousse. Je t'ai envoyé chercher mon épouse. Et comme de fait, à cet endroit-là, je me suis arrêté. C'est sûr que l'épouse, c'est d'abord ceux qui ne connaissent pas encore Jésus aussi. Mais là, il y en avait quelques-uns. Et quand je suis arrêté, j'ai dit, je peux pas passer devant ce village-là sans arrêt. Moi qui ai toute, on pourrait dire, la richesse spirituelle, et laisser quelques croyants là mal nourris, on pourrait dire. Et donc, attiré par cet appel-là, je pourrais dire, de l'Église, je me suis arrêté. Finalement, il en restait juste un. S'il y en a qui se rappellent, peut-être j'ai déjà montré sa photo. Il s'appelle Ahamadou. C'était le dernier qui osait dire qu'il était chrétien encore. Il y avait un autre homme qui le disait, mais dès que je me suis arrêté, là, il avait trop était trop intimidé. Il disait plus qu'il était chrétien. Mais au moins avec Ahamadou. Et à chaque semaine, donc, j'arrêtais et j'allais voir Ahamadou. Et je me disais, c'est vrai que lui, là, maintenant, il est tout seul. Il est plus deux ou trois, là où deux ou trois se réunissent en son nom. Mais au moins, nous, en y allant le voir, on devenait ce un ou deux qui sont réunis en son nom. Et donc, on retrouvait l'Église de Jésus, là, perdue en pleine brousse, dans un village. Mais tout ça pour dire que c'était l'image, je pourrais dire, de notre appel, c'était trouver l'épouse de Jésus, de trouver sa femme. Un peu comme ce serviteur à qui Abraham a dit, « Abraham, viens ici. » Non, pas Abraham. C'est Abraham qui dit à son serviteur, il dit, viens ici. Il dit, je vois mon fils, il grandit. Je veux y trouver une femme noble. Je veux y trouver une femme qui a une éducation semblable à sa famille. Il dit, tu vas aller dans telle contrée. Tu vas aller à la recherche d'une femme pour mon fils. Il lui a fait prêter serment. Et le serviteur d'Abraham est parti, même avec des chameaux. Moi, je n'avais pas de chameau, mais il est parti et est allé chercher l'épouse pour Isaac. Et c'était cette image-là en même temps que Jésus me donnait. Mais tout ça parce que l'Église, elle est belle. L'Église, elle est précieuse. Et encore, je dirais, nous sommes précieux aux yeux de Jésus. Dites ça à votre voisin. Nous sommes précieux au nom de Jésus, aux yeux de Jésus. Mais là, peut-être vous allez me dire, oui, mais Daniel, l'Église au Québec, est-ce qu'elle est belle vraiment? Hein? Est-ce que vraiment l'Église, on est plein de problèmes. Là, j'en profite, le pasteur n'est pas là, mais les anciens, vous avez une réunion d'anciens, hein, vous avez dû dire tous les problèmes. L'Église a des rides ici, là, et là. C'est sûr, je sais qu'il y a cette réalité-là, d'accord? Mais Jésus a plus que de la foi, là, plus que de l'espérance. Pour lui, c'est la réalité. Il nous voit déjà glorifiés. Mais en passant, avant de dire à Jésus, « Hey Jésus, ta femme est laite », il faudrait y penser, hein? Est-ce que vous imagineriez, je sais qu'on serait capable d'aller voir le premier ministre ou quelqu'un parce qu'on est, tu sais, mais est-ce qu'on irait voir, je sais pas, votre patron? Essayeriez-vous voir votre patron d'entreprise, là, puis dire, « Hey, patron, j'ai une confidence à te dire, je trouve que ton épouse est pas très, très jolie. » Mais là, c'est encore gentil, là, tu sais, mais si vous dites, « Hey, vraiment, elle a plein de problèmes, ta femme, tu sais, tu trouves pas, elle est capotée, hey, il me semble... Arrête pas de crier, arrête pas des hauts et des bas, puis tu sais, imagineriez-vous, vous allez dire ça à votre employeur, à votre patron, à votre supérieur. Imaginez-vous aller voir un joueur du Canadien, ben c'est vrai qu'ils sont petits, eux autres. Imaginez-vous aller voir les joueurs des Bruins de Boston, aller dire, hey, Chara, tu sais, vous dites pas, hey, qu'est-ce que t'as fait à Pacioretty, vous diriez, hey, ta femme est pas belle, tu sais. Est-ce que vous imagineriez dire ça? Mais, tout ça pour dire, soyons respectueux au moins. Et osons dire, hey, est-ce que je serais capable de dire à Jésus, hey Jésus, ton épouse n'a pas d'allure ou a tel défaut? Mais peut-être qu'on devrait dire, ah non, hey Jésus, montre-moi comment te la voit ton épouse. Parce que aussi fou que ça puisse paraître, la majeure partie des maris trouvent leur femme belle. Encore. Moi, je me rappelle, adolescent, là c'est... J'étais jaloux d'un gars. D'accord? À mes yeux, ce gars-là était pas beau. Puis, il y avait toujours les belles filles de l'école. Il y avait toujours des blondes, puis c'est les belles filles. Puis là, je me disais, comment ça, moi, je suis quand même pas laid comme lui, tu sais? Hein? Mais aux yeux des filles, il devait être beau. Il y avait quelque chose. Et aux yeux de Jésus, nous sommes beaux, nous, l'Église. Aux yeux de Jésus, on est ravissante. On est émerveillante. Et il nous chérit encore. Et messieurs, profitez-en pour tous ceux qui sont mariés, de dire à votre femme encore ce soir, et pas juste à cause que c'est moi qui vous dis de le dire, là, mais dis, hey, vraiment, t'es ravissante. T'es belle. Mais en même temps, en parlant du parcourir le Québec au complet, je parcours en ce moment le Québec partout et souvent je me dis, ah, c'est vrai, l'Église au Québec, elle a des problèmes. Et je visite plein d'églises. Et je reviens et je dis à Sophie tout le temps, je dis, je suis pas capable de pas m'émerveiller. Quand je rentre dans une église, quand je vois des gens réunis, je vois des gens qui aiment le Seigneur. Je vois des gens qui ont soif du Seigneur puis qui ont encore le guts de venir et dire, moi j'aime Jésus et je me réunis avec d'autres frères, d'autres sœurs. Et ça, je vois ça partout au Québec. C'est ce que je voyais au Niger. Hein? Même s'il restait juste un frère, il avait encore le courage de dire, hey, moi je suis chrétien. Et moi, j'aime Jésus. Et c'est le coup d'œil que j'aimerais juste qu'on ait. C'est certain que... Ouais, c'est certain qu'on peut constater nos défauts, nos erreurs. On peut dire, ah, oh, mon frère ici à côté, il m'énerve. Ah, ma sœur ici, elle m'intimide. Mais nous tous ensemble, on forme l'épouse de Jésus. J'avais aimé cette image que Pasteur Michel avait donnée quand on prenait la table du Seigneur, hein, qui disait, si on prenait tous les petits pains puis qu'on les mettait ensemble, donc tout ce que nous on représente puis on met ensemble, on verrait Jésus, le corps de Jésus. On verrait parce que on est son épouse, tel son corps. Et donc, on pourrait dire en conclusion, ce que j'aimerais donner pour nous, pour l'Église, c'est qu'on se dise, l'Église, elle a besoin d'être aimée. Nous, en tant qu'Église, on a besoin d'être aimés. On n'a pas besoin d'être tapé sur la tête, d'être critiqué, d'être condamné, d'être calomnié, on a besoin d'aimer l'Église. Et aimons l'Église. Osons croire, dire, hey, moi l'Église, je vais la trouver belle. Je vais demander à Jésus, Jésus, donne-moi tes yeux pour que je vois ton épouse. Et aimons l'Église. Et quand je dis aimons l'Église, est-ce que ça vous rappelle une parole du Seigneur Jésus? Quelqu'un? Oui, merci. Hein? Aimons-nous les uns, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Hein? L'Église, elle est digne d'être aimée. Aimons l'Église, ça veut dire aimons-nous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront quoi? Que nous sommes ses disciples, à l'amour que nous avons les uns pour les autres aussi. Alors, des fois, on peut se poser beaucoup de questions, dire, ah, comment je vais faire pour briller dans ce monde? Comment on va faire pour manifester la présence de Jésus dans ce monde? Eh bien, Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres? D'abord dans l'Église, nous. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors dites, en dernière parole, dites ça à votre voisin. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Amen. Alors, je vais clore ici, mais je vous invite à revenir dans la louange, je vais inviter l'équipe de louange à revenir, mais j'aimerais qu'on rentre dans la louange, dans cette attitude-là d'une épouse, ben, pas d'une épouse, mais dans l'attitude de l'épouse, parce que c'est mettre un fardeau sur les épouses, qu'il va dire, faut-tu que je chante des louanges à mon mari, mais... Mais j'aimerais qu'on revienne dans la présence du Seigneur avec cet émerveillement-là de se dire, hey, Jésus, tu m'aimes tellement, je vais te le chanter, je vais te le dire, je vais te le célébrer de cette manière-là.